Dans la plupart des diocèses de France, il existe un lieu tenu secret pour accueillir les musulmans qui ont rencontré le Christ et qui demandent le baptême. Et on sait très bien pourquoi ce lieu est tenu secret. C'est parce que c'est une des particularités de l'islam de ne pas connaître la liberté religieuse, la possibilité de changer de religion. Ni la liberté religieuse, ni la liberté d'expression sur les questions religieuses en particulier. Et la moquerie est vécue comme un blasphème. Et dans les deux cas, c'est passible de mort de quitter l'islam ou de l'offenser. Quel est le nombre de musulmans qui, chaque année en France, se convertissent au christianisme? Quelques centaines, sans comparaison évidemment avec l'inverse. Le nombre de baptisés qui deviennent musulmans, d'autant que certains n'ont pas le choix, certains autres se facilitent la vie ou se soumettent à des contraintes particulières, tandis que les musulmans qui deviennent chrétiens risquent leur vie. Et nous avons un gros travail de formation à faire dans l'accueil de nos paroisses. Pour être évidemment accueillant et pour éviter les réponses inappropriées, par exemple qu'on n'en voit pas tellement l'intérêt, puisque, connaissez la formule, on a ou on aurait le même Dieu. C'est un dialogue authentique que je peux vous rapporter. Ah bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Ah, vous voulez être baptisé? Vous êtes musulman? J'ai de très bons amis musulmans. Mais pourquoi voulez-vous changer? Pourquoi ne pas rester, devenir un meilleur musulman? Nous avons le même Dieu. Et l'homme à qui on disait cela, et qui l'a raconté plus d'une fois parce qu'il en était sidéré, était bien placé pour savoir que non, nous n'avons pas le même Dieu. Oui, il y a un seul Dieu, mais la connaissance que nous en avons n'est pas la même. Il est difficile, voire parfois insupportable, pour des musulmans qui risquent leur vie par leur conversion, d'entendre dire que musulmans et chrétiens ont le même Dieu. L'expression a pourtant été utilisée par Jean-Paul II, dans les années 80, notamment dans une rencontre avec des jeunes musulmans à Casablanca, en août 85, je le cite. Chrétiens et musulmans, nous avons beaucoup de choses en commun, comme croyants et comme hommes. Nous vivons dans le même monde, marqué par de nombreux signes d'espérance, mais aussi par de multiples signes d'angoisse. Abraham est pour nous un même modèle de foi en Dieu, de soumission à sa volonté et de confiance en sa bonté. Là, j'aurais tendance à dire que soumission à sa volonté, c'est plutôt musulman, confiance en sa bonté, c'est plutôt chrétien. Et il ajoute, nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les mondes et porte ses créatures à leur perfection. Et 3 mois plus tôt, à Rome, c'est toujours en 85, en mai 85, aux participants d'un symposium sur la sainteté dans le christianisme et dans l'islam, il avait dit, comme je l'ai souvent dit dans d'autres rencontres avec des musulmans, nous avons un seul et même Dieu. L'expression n'est pas tout à fait la même, un seul et même Dieu. Et nous sommes frères et sœurs dans la foi d'Abraham, ainsi il est naturel que nous ayons beaucoup de sujets à débattre concernant la vraie sainteté dans l'obéissance et le culte rendu à Dieu. Oui, nous avons beaucoup de sujets à débattre, et en particulier celui-là, que nous ayons le même Dieu. Tant pour nous, c'est le Christ Jésus qui est le même. Il est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité, dit la lettre aux Hébreux. Notre Dieu est Père, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, Dieu Trinité dans la communion des personnes. Et le Christ, la deuxième personne de la Trinité, a été envoyé par le Père. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Galates, il est né d'une femme. Il s'est soumis à la loi de Moïse pour faire de nous des enfants d'adoption. Nous sommes des créatures, tous des créatures uniques au monde, et par le Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous pouvons désormais appeler Dieu notre Père. Et quelle est dès lors la relation de fraternité que nous pouvons avoir avec des hommes et des femmes qui non seulement ne connaissent pas le Christ, mais qui le rejettent. C'est le terme qui est employé par Jésus dans l'Évangile aujourd'hui. Jésus enseigne à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué, et le troisième jour qu'il ressuscite. Et de fait, Jésus-Christ est par sa résurrection, dit saint Paul, le premier-né d'une multitude de frères. C'est le Christ qui nous donne cette fraternité, premier-né d'entre les morts, et de la même façon que nous sommes sauvés en espérance, spe salvi. De la même façon que nous sommes sauvés en espérance, nous sommes en réalité frères en espérance. Il n'y a qu'au ciel que nous le serons vraiment, dans la justice et la sainteté. Pierre, dans l'Évangile, vient de dire « Tu es le Christ ». Et la réaction de Jésus est surprenante. Il leur défend de parler de lui à personne. Littéralement, il les reprend vivement. Et c'est un verbe qui est employé trois fois, trois reprises. C'est le même verbe qui est utilisé ensuite quand Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Il s'emporte contre lui. Et Jésus se retourna, voyant ses disciples, l'interpella vivement Pierre. Littéralement, il s'emporte contre lui. Le même verbe, par trois fois, Jésus s'emporte contre ses disciples. Pierre s'emporte contre Jésus. Jésus s'emporte contre Pierre. Signe de la tension que suscite la foi. Nous sommes tellement habitués à dire que l'amour ne s'emporte pas, que l'amour supporte tout, qu'il endure tout, qu'évidemment ça nous gêne. Dans un commentaire remarquable de l'évangile de saint Marc, que je vous conseille vraiment, qui s'appelle « Marc, l'histoire d'un choc », le père abbé d'Encalcate, le père David Marc d'Amonville, appelle le passage que nous avons entendu « la grande engueulade de Césarée ». Voilà, au moins c'est clair. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle ainsi? Pour montrer à quel point pour Jésus, l'écart est trop grand à ce stade de sa relation avec les disciples, l'écart est trop grand entre ce que les disciples peuvent appréhender de lui et la réalité de sa divinité. Toute confession de foi est risquée, dangereuse, porteuse d'un enjeu vital, dit le père David, qui, un peu plus loin, a cette formule somptueuse sur le Christ. Il dit qu'il est patient à cause du respect de notre liberté et impatient comme le désir. Seul l'amour est ainsi, et patient comme le respect, et impatient comme le désir. Voilà comment nous devons prier pour la conversion des musulmans. Avec la patience du respect et l'impatience du désir. C'est pas dû en même temps parce que l'un prime sur l'autre. Le respect passe toujours avant. Le respect passe toujours avant le désir. Mais le second, le désir, est indispensable pour donner vie au premier. C'est le désir qui donne vie au respect. Respecter les non-croyants, respecter les non-baptisés, signifie avoir ce désir profond, désirer vivement, qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent, qu'ils adorent le Christ.